plu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Pondérant de, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas. Quand j'avais 7 ans, nous vivions dans une maison de verre. Un de nos voisins, un tailleur de talent, battait souvent sa femme. Le soir, on écoutait les cris, les pleurs, les insultes. Le matin, on vaquait à nos occupations habituelles. Tout le voisinage prétendait n'avoir rien vu, rien entendu. Ce roman est dédié à ceux qui entendent, à ceux qui voient. Ma mère est morte 2 fois. Je me suis promis de ne pas permettre qu'on oublie son histoire. Mais je n'ai jamais trouvé le temps, la volonté ou le courage de la coucher par écrit. Jusqu'à récemment, je veux dire. Enfin, je ne crois pas être en mesure de devenir un véritable écrivain, et ça n'a plus d'importance. J'ai atteint un âge qui me met davantage en paix avec mes limites et mes échecs. Il fallait pourtant que je raconte cette histoire, ne serait-ce qu'à une personne. Il fallait que je l'envoie dans un coin de l'univers où elle pourrait flotter librement, loin de nous. Je la devais à maman, cette liberté. Et il fallait que je termine cette année, avant qu'il soit libéré de prison. Dans quelques heures, je retirerai du feu le halva au sésame. Je le mettrai à refroidir près de l'évier et j'embrasserai mon époux, feignant de ne pas remarquer l'inquiétude dans ses yeux. Je quitterai alors la maison avec mes jumelles, 7 ans, nées à 4 minutes d'intervalle, pour les conduire à une fête d'anniversaire. Elles se disputeront en chemin, et pour une fois, je ne les gronderai pas. Elles se demanderont s'il y aura un clown à la fête, ou mieux, un magicien. Comme Harry Houdini, suggérais-je.
Harry ou quoi ?
Houdini, elle a dit, idiote !
C'est qui, maman ?
Ça me fera mal. Une douleur de piqûre d'abeille. Pas grand-chose en surface, mais une brûlure tenace à l'intérieur. Je me rendrai compte, comme à tant d'occasions, qu'elles ne connaissent rien de l'histoire de la famille, parce que je leur en ai raconté si peu. Un jour, quand elles seront prêtes, quand je serai prête. Après avoir déposé les petites, je bavarderai un moment avec les autres mères. Je rappellerai à l'hôtesse qu'une de mes filles est allergique aux noix et que, comme il est difficile de distinguer les jumelles, il vaut mieux les garder à l'œil toutes les deux et s'assurer que ni l'une ni l'autre n'ingère d'aliments contenant des noix, y compris le gâteau d'anniversaire. C'est un peu injuste pour mon autre fille, mais entre jumelles, ça arrive parfois. L'injustice, je veux dire. Je retournerai alors à ma voiture, une Austin Montego, que mon mari et moi conduisons à tour de rôle. La route de Londres à Shrewsbury prend 3h30. Il est possible que je doive faire le plein d'essence juste avant Birmingham. J'écouterai la radio. Ça m'aidera à chasser les fantômes. La musique. Bien des fois, j'ai envisagé de le tuer. J'ai élaboré des plans complexes, mettant en action un pistolet, du poison, voire un couteau à cran d'arrêt. Une justice poétique, en quelque sorte. J'ai même pensé à lui pardonner, tout à fait, en toute sincérité. En fin de compte, je n'ai rien accompli. En arrivant à Shrewsbury, je laisserai la voiture devant la gare et je parcourrai à pied en 5 minutes la distance me séparant du sinistre bâtiment de la prison. Je ferai les 100 pas sur le trottoir où je m'adosserai au mur, face au portail, pour attendre qu'il sorte. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je ne sais pas non plus comment il réagira en me voyant. Je ne l'ai pas revu depuis plus d'un an. Au début, je lui rendais visite régulièrement, mais alors qu'approchait le jour de sa libération, j'ai cessé de venir. À un moment, le lourd battant s'ouvrira et il sortira. Il lèvera le regard vers le ciel couvert, lui qui a perdu l'habitude d'une aussi vaste étendue au-dessus de lui, en 14 années d'incarcération. Je l'imagine plissant les yeux pour se protéger de la lumière du jour, comme une créature de la nuit. Pendant ce temps, je ne bougerai pas. Je compterai jusqu'à 10, ou 100, ou 3000. On ne s'embrassera pas. On ne se serrera pas la main. Un hochement de tête, un salut murmuré de nos voix fluettes et étranglées. Arrivé à la gare, il sautera dans la voiture. Je serai surprise de constater qu'il est toujours musclé. C'est encore un jeune homme, après tout. S'il veut une cigarette, je ne m'y opposerai pas, bien que j'en déteste l'odeur et que je ne laisse mon mari fumer ni dans la voiture ni à la maison. Je roulerai à travers la campagne anglaise, entre des prairies paisibles et des champs cultivés. Il m'interrogera sur mes filles. Je lui dirai qu'elles sont en bonne santé, qu'elles grandissent vite. Il sourira comme s'il avait la moindre idée de ce que c'est que d'être parent. Je ne lui poserai aucune question en retour. J'aurai apporté une cassette pour la route. Les plus grands succès d'Abba. Toutes les chansons que ma mère aimait fredonner en cousant, en faisant la cuisine ou le ménage. Parce qu'elle nous regardera, j'en suis certaine. Les mères ne montent pas au paradis quand elles meurent. Elles obtiennent la permission de Dieu de rester un peu plus longtemps dans les parages pour veiller sur leurs enfants, quoi qu'il se soit passé entre eux au cours de leur brève vie mortelle. De retour à Londres, on gagnera Barnsbury Square et je chercherai une place de stationnement en grognant. Il se mettra à pleuvoir, des petites gouttes cristallines, et je réussirai à me garer. Je me demande s'il me dira en riant que j'ai la conduite typique des femmes au volant. Il l'aurait fait jadis. On se dirigera ensemble vers la maison, dans la rue silencieuse et lumineuse devant et derrière nous. Pendant un court instant, je comparerai ce qui nous entoure à notre maison de Hackney, celle de Lavender Grove, et je n'en reviendrai pas de trouver tout si différent désormais. Combien le temps a progressé, alors même que nous ne nous progressions pas. Une fois à l'intérieur, on retirera nos chaussures et on enfilera des pantoufles. Une paire de charentaises anthracite pour lui, empruntée à mon mari, et pour moi des mules bordeaux à pompons. Son visage se crispera en les voyant. Et pour l'apaiser, je lui dirai qu'elles sont un cadeau de mes filles. Il se détendra, en comprenant que ce ne sont pas les siennes à elles, que la ressemblance n'est que pure coïncidence. Depuis la porte, il me regardera faire du thé, que je lui servirai sans lait mais avec beaucoup de sucre, à condition que la prison n'ait pas changé ses habitudes. Puis, je sortirai le halva au sésame. On s'asseoira tous les deux près de la fenêtre, nos tasses et nos assiettes à la main, comme des étrangers polis observant la pluie sur les jonquilles du jardin. Il me complimentera sur mes talents de cuisinière et me confiera que le halva au sésame lui a manqué, tout en refusant d'en reprendre. Je lui dirai que je respecte la recette de maman à la lettre, mais que jamais il n'est aussi bon que le sien. Ça le fera taire. On se regardera dans les yeux, dans un silence lourd. Puis il s'excusera, prétextera de la fatigue pour demander à aller se reposer, si c'est possible. Je le conduirai à sa chambre et je refermerai lentement la porte. Je le laisserai là, dans une pièce de ma maison, ni loin ni trop près. Je le confinerai entre ces 4 murs, entre la haine et l'amour, sentiment que je ne peux m'empêcher d'éprouver, piégé dans une boîte au fond de mon cœur. C'est mon frère. Lui, un meurtrier. Des noms comme des morceaux de sucre. Un village près de l'Euphrate, 1945.
Quand Pembe naquit, Nazé fut si triste qu'elle oublia ses souffrances des 26 dernières heures et le sang qui coulait entre ses jambes. Elle tenta de se lever. C'est du moins ce que tout le monde a raconté, toutes celles qui étaient présentes à l'accouchement en ce jour venteux. Elle eut beau vouloir partir, Nazé ne put aller nulle part, à la grande surprise des femmes dans la pièce et de son mari, qui attendait dans le jardin. Une nouvelle vague de contractions la contraignit à se recoucher. Quelques minutes plus tard, la tête d'un second bébé apparut. Beaucoup de cheveux, peau rougeaude, humide, fripée, une autre fille, plus petite encore. Cette fois, Nazé ne chercha pas à s'enfuir. Elle poussa un soupir, enfouit son visage dans l'oreiller et se tourna vers la fenêtre ouverte, comme si elle s'efforçait d'entendre le destin murmurer dans le vent, doux comme le lait. Elle se dit que, si elle écoutait très attentivement, elle pourrait percevoir une réponse des cieux. N'y avait-il pas, après tout, une raison qu'elle ignorait, mais qui était sûrement évidente aux yeux d'Allah, pour qu'il leur ait envoyé deux filles de plus, alors qu'ils en avaient déjà six ? Et toujours aucun fils ? Nazé fit la moue, puis serra les lèvres, décidée à ne plus articuler un mot jusqu'à ce qu'Allah lui explique, complètement et de manière convaincante, les motifs de ses actions. Même dans son sommeil, sa bouche restait hermétiquement close. Durant les 40 jours et les 40 nuits qui suivirent, elle ne prononça pas une parole. Pas même quand elle cuisinait des pois chiches dans la graisse de queue de mouton. Ni quand elle donnait leur bain à ses 6 autres filles dans la grande bassine ronde en étain, ni quand elle faisait du fromage assaisonné d'ail, sauvage et d'herbe, ni quand son mari lui demandait comment elle aimerait appeler les bébés. Elle garda le silence du cimetière près des collines où ses ancêtres étaient enterrés et où, elle aussi, elle reposerait un jour. C'était un village kurde, rude et désolé, sans route, sans électricité, sans médecin et sans école. Seules de rares nouvelles de l'extérieur perçaient la gangue qui l'isolait. Les suites de la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique, les villageois n'en avaient rien appris. Pourtant, ils étaient convaincus que des choses étranges se produisaient dans l'univers, c'est-à-dire par-delà les rives de l'Euphrate. Le monde étant ce qu'il était, il ne servait à rien de souhaiter le découvrir. Tout ce qui avait été et tout ce qui serait était déjà présent, ici et maintenant. Les êtres humains étaient destinés à la sédentarité, comme les arbres et les rochers. Sauf si vous étiez un de ces trois personnages, le mystique errant qui a perdu son passé, le fou qui a perdu la tête, ou le Majnoun qui a perdu sa bien-aimée. À part les derviches, les originaux et les amants, les autres ne s'étonnaient de rien et considéraient que tout était comme il se devait. Quoi qu'il se produisît dans un coin du village, ça se savait immédiatement. Les secrets étaient un luxe que seuls les riches pouvaient s'offrir et à Malachabayan, qui signifiait maison des quatre vents, personne n'était riche. Les anciens du village, trois hommes menus et pitoyables, occupaient presque tout leur temps dans l'unique café à contempler les mystères de la sagesse divine et la stupidité des politiciens, en sirotant leur thé dans des verres minces comme des coquilles d'œufs, aussi fragiles que la vie. Quand ils furent informés du vœu de silence de Nazé, ils décidèrent de lui rendre visite.
« Nous sommes venus te mettre en garde, car tu es sur le point de commettre un sacrilège. »
lui dit le premier homme, si âgé que la moindre brise risquait de le jeter à terre.
« Comment peux-tu espérer qu'Allah, le Tout-Puissant, te révèle ses intentions alors qu'on sait qu'il ne s'est jamais adressé qu'aux prophètes ?»
remarqua le second homme, qui n'avait plus que quelques dents dans la bouche.
En tout cas, il n'y avait aucune femme parmi eux.
Le troisième homme agita les mains, raides et noueuses comme des racines d'olivier.
« Allah veut t'entendre parler !» déclara-t-il. « Dans le cas contraire, il t'aurait faite poisson !»
Nazé les écouta en se tamponnant les yeux de temps à autre avec les pans de son foulard. Pendant un moment, elle s'imagina poisson, une grande truite brune dans la rivière, ses nageoires luisant au soleil, ses taches entourées de halos pâles. Elle ne savait pas que ses enfants et ses petits-enfants, à différentes époques de leur vie, se sentiraient attachés à diverses sortes de poissons et qu'une affinité avec le royaume des eaux habiterait la famille pendant des générations à venir.
« Parle !» ordonna le premier vieillard. « C'est contre nature pour ton genre de rester silencieuse. Tout ce qui est contre la nature est contre la volonté d'Allah. »
Nazé resta silencieuse. Quand les honorables invités se retirèrent, elle s'approcha du berceau où dormaient les jumelles. Les flammes dans la cheminée éclairaient la pièce d'une lueur dorée qui conférait à la peau des bébés un éclat doux, presque angélique. Son cœur fondit. Elle se tourna vers ses six filles qui s'étaient rassemblées derrière elle, de la plus grande à la plus petite, et annonça, d'une voix à la fois rauque et vide.
« Je sais quel nom je vais leur attribuer. »
« Dis-nous, maman !»
s'exclamèrent les filles, tout excitées, ravies de l'entendre parler à nouveau. Nazé s'éclaircit la gorge et déclara, comme vaincue,
« Celle-ci sera Bext et celle-là baissée. »
« Bext et baissée !» reprirent les filles à l'unisson.
« Oui, mes enfants. »
Elle fit claquer ses lèvres. Comme si ces noms avaient laissé un goût dans sa bouche, une saveur salée et aigre. Bext et Bessé en kurde, Kader et Yeter en turc, destiné et assez dans toutes les langues possibles. C'était sa façon de dire à Allah
« Comme une bonne musulmane, je me soumets à mon destin. Mais j'ai eu mon lot de filles et la prochaine fois que je serai enceinte, et je sais que ce sera la dernière, parce que j'ai 41 ans et que je suis plus de ma première jeunesse. Il faut que vous me donniez un fils, et rien d'autre qu'un fils. »
Le soir, quand leur père rentra à la maison, les filles se précipitèrent pour lui annoncer la nouvelle.
« Papa, papa, maman parle !»
Berceau, bien que ravi d'entendre enfin sa femme reparler, fronça les sourcils quand il apprit quel nom elle avait choisi pour les bébés. Il resta un long moment silencieux, secouant la tête. «
Destiné est assez, marmonna-t-il, comme à lui-même. Ce ne sont pas des noms que tu as donnés aux enfants, c'est une pétition au ciel !»
Nazé baissa les yeux et observa le gros orteil qui sortait d'un trou dans sa chaussette de laine.
« Des noms suggérant un ressentiment risquent d'offenser le Créateur. Pourquoi attirer sa colère sur nous ? Il vaut mieux nous en tenir à des noms ordinaires, par prudence. »
Il annonça alors qu'il avait une alternative, Pembe et Jamila, Rose et Belle, des noms tels des morceaux de sucre qui fondent dans le thé, doux, onctueux, sans aspérité. La décision de Berceau avait beau être définitive, les choix de Nassé ne s'oublièrent pas si facilement. Ils s'attardèrent dans l'esprit de tous, attachés à l'arbre généalogique comme des cerfs-volants pris dans les branches. On appela donc les jumelles par leurs deux noms, Pembe Kader et Jamila Yeter, Destinée Rose et Belle Assé.
Thank you.
Ascander, Ascander, un village près de l'Euphrate, 1962-1967.
Pembe était une femme aux pensées illogiques et aux peurs infondées. Cette part de sa personnalité n'avait pas évolué au fil des années, non. Pembe était devenue superstitieuse tout d'un coup, presque d'un jour à l'autre. La nuit où Iskander était né. La jeune mère, belle, effrayée, avait 17 ans. Elle se trouvait dans une pièce crépusculaire, les yeux rivés sur le berceau, comme si elle n'était toujours pas convaincue que ce bébé aux doigts roses, si fragile, à la peau translucide et à la tache pourpre sur son petit nez, ait survécu, contre toute attente. Que désormais, il serait son enfant, à elle. Un fils, ce fils que sa mère avait tenté de concevoir, qu'elle avait appelé de ses vœux, qu'elle avait demandé dans ses prières pendant toute sa vie. Nazé avait à nouveau procréé après Destinée Rose et Belle Assez. Il fallait que ce soit un garçon cette fois. Il ne pouvait en être autrement. Allah le lui devait.
Il a une dette envers moi,
affirmait-elle alors qu'elle savait proférer là un affreux blasphème. Il s'agissait d'un accord secret entre elle et le Créateur. Après tant de filles, il allait se faire pardonner. Elle en était si convaincue qu'elle avait passé des mois à tricoter des couvertures, des chaussons et des brassières dans un bleu plus profond qu'une nuit d'orage. Le tout prévu pour un petit garçon parfait. Elle n'écoutait personne, pas même la sage-femme qui l'avait examinée après la rupture de la poche des os et qui, d'une voix douce que la brise lui avait annoncé que le bébé se présentait mal, qu'il vaudrait mieux se rendre en ville. Elle avait encore le temps. S'il partait tout de suite, il pourrait atteindre l'hôpital avant le début du travail.
« Baliverne !»
avait rétorqué Nazé, en soutenant le regard de la sage-femme et de ses yeux furieux. Tout allait bien, tout était entre ses mains. Elle avait 49 ans, ce serait son enfant miracle. Elle allait donner naissance ici, dans sa propre maison, dans son propre lit, comme à chacune de ses autres grossesses, mais cette fois, ce serait un garçon. Le bébé arrivait par le siège. Il était si gros, il se présentait dans une si mauvaise position. Les heures passèrent. Personne ne les compta, car ça portait malchance. Allah n'était-il pas le seul maître du temps, l'horloger divin? Ce que les simples mortels trouvaient horriblement long ne durait qu'un clignement d'œil pour lui. C'était pourquoi on avait couvert toutes les pendules de velours noir, ainsi que les miroirs de la maison, qui constituaient des portes vers l'inconnu.
« Elle ne peut plus pousser !»
constata une des femmes présentes à l'accouchement. « Il va falloir donc que je le fasse pour elle !» déclara la sage-femme sans la moindre hésitation. Son regard trahit pourtant la peur qu'elle voulait dissimuler. Elle glissa la main dans le corps de Nazé jusqu'à toucher le corps visqueux du bébé. Elle sentit un faible battement de cœur, tel le crachotement d'une bougie qui va s'éteindre. Avec douceur mais fermeté, elle tenta de retourner l'enfant dans le ventre. Une fois, deux fois. Elle fut plus brutale la troisième, pressée par l'urgence. Le bébé tourna dans les sens des aiguilles d'une montre, mais ce ne fut pas suffisant. Sa tête compressait le cordon ombilical, réduisant dangereusement la quantité d'oxygène qui lui parvenait. Nazé avait perdu tellement de sang qu'elle s'évanouissait de temps à autre. Ses joues avaient la couleur de l'hiver. Il fallait faire un choix. La sage-femme savait que ne survivraient que la mère ou l'enfant. Elle n'avait aucun moyen de les sauver tous les deux. Sa conscience observa un silence de nuit sans lune, d'un noir absolu. En un instant, elle prit sa décision. Elle allait choisir la femme. À ce moment, Nassé allongé, les yeux clos, frôlant la mort, saignait à blanc, leva la tête et s'écria
« Non ! Espèce de putain !»
Un cri suraigu et puissant qui n'avait rien d'humain. La femme en couche s'était transformée en animal sauvage et avide, farouche, prêt à attaquer quiconque se mettrait en travers de son chemin. Elle courait dans une forêt dense où les rayons du soleil se reflétaient sur les feuilles dorées, libre comme jamais. Ceux qui l'entendirent pensèrent qu'elle avait perdu l'esprit. Seule une folle pouvait crier ainsi.
« Ouvre-moi, salope ! Sors-le !»
Elle rit, l'air d'avoir déjà passé un seuil au-delà duquel tout n'était que plaisanterie.
Et tu vois pas, mon fils arrive, sale putain méprisable, dite jalouse. Prends une paire de ciseaux, tout de suite. Ouvre-moi le ventre et sors mon fils.
Des nuages de mouches tourbillonnaient dans la pièce comme des charognards au-dessus d'une proie. Il y avait trop de sang partout, trop de rage et de ressentiment dégoulinant sur les draps, les murs, les tapis. L'air était devenu épais, immobile. Les mouches, si seulement les mouches pouvaient disparaître. Nassé ne survécut pas, ni le bébé bien longtemps. Ce bébé à propos duquel Nassé s'était trompé. Son 9e enfant, celui qui l'avait tué et qui s'était ensuite éteint doucement dans son berceau, était une fille. Ainsi, en ce jour de novembre 1962, alors qu'elle était éveillée dans son lit au petit matin, l'idée que Dieu pût être si arbitraire bouleversait Pembe. À 17 ans à peine, elle allaitait déjà un fils. Elle ne put s'empêcher de penser que quelque part dans le ciel, sous une lumière aqueuse, sa mère la regardait avec envie.
8 naissances, 5 fausses couches, un bébé mort et aucun n'était un fils. Et tu donnes un fils bien sain à mon cervelet de fille. Pourquoi, Allah, pourquoi ?
La voix de Nassé résonna dans les oreilles de Pembe, évoluant en une boule de rage incandescente qui descendit dans sa poitrine et se logea dans son ventre. Elle eut beau lutter de toutes ses forces contre ses angoisses, elle ne parvint qu'à en créer de nouvelles. Elles décrivirent des cercles dans son esprit, tels des toupies, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où se cacher du regard mauvais de sa mère défunte. Dès qu'elle y prêtait attention, elle retrouvait ce regard partout. Dans les graines et dans les noix de cajou qu'elle pilait dans un mortier en pierre et transformait en pâte pour enrichir son lait. Dans les rigoles de pluie qui sillonnaient la fenêtre. Dans l'huile d'amande douce dont elle oignait ses cheveux après le bain. Dans les bulles de l'épaisse soupe au yaourt qui cuisait dans la poêle. Allah le miséricordieux, je t'en supplie, fais que ma mère ferme les yeux dans sa tombe et donne à mon fils force et santé. Priait Pembe en se balançant d'avant en arrière comme si c'était elle qu'on devait endormir, et non le bébé. La nuit où Iskender naquit, Pembe fit un cauchemar, comme très souvent pendant sa grossesse, mais celui-ci parut si réel qu'elle ne put s'en détacher et ne ressortit jamais complètement des terres liquides du rêve. Elle se voyait allongée, la tête en bas, sur un tapis ornemental, les yeux grands ouverts, le ventre gonflé. Au-dessus d'elle, des nuages circulaient dans le ciel. Elle se rendait compte que le tapis était étendu sur l'eau d'une rivière tumultueuse qui tourbillonnait sous son corps. « Mais comment se fait-il que je ne coule pas ?» se demandait-elle. En guise de réponse, le ciel se fendait et deux mains en descendaient. Était-ce les mains de Dieu ou les mains de sa mère ? Elle n'aurait su le dire. Elles ouvraient son ventre. Elle n'éprouvait aucune douleur. Seule l'horreur de savoir ce qui se passait. Puis les mains sortaient le bébé. C'était un garçon rondelé, aux yeux de couleur de galets d'ombre. Avant que Pembe puisse le toucher, et encore moins le câliner, les mains jetaient le bébé dans la rivière. Il s'éloignait à la surface de l'eau, comme un bout de bois, comme le prophète Moïse dans son panier. Pembe ne partagea son cauchemar qu'avec une personne. Les yeux brillants et brûlants pendant le récit enfiévré. Jamila écouta, et soit qu'elle y crut, soit qu'elle voulut libérer sa jumelle de la terreur qui lui inspirait le spectre de Nassé, elle trouva une explication.
« Tu as été envoûtée, probablement par un djinn. »«
Un djinn ?»«
Oui, ma chérie, les djinns adorent faire la sieste sur les fauteuils et les canapés, tu le sais bien. Les djinns adultes peuvent s'en extraire à toute vitesse quand ils voient arriver un humain. » Mais les nourrissons ne sont pas aussi rapides et les femmes enceintes sont lourdes et maladroites. Tu as dû t'asseoir sur un bébé djinn et l'écraser.
Oh mon Dieu !
Jamila fronça le nez comme si elle percevait une mauvaise odeur. À mon avis, sa mère a dû revenir. Et pour se venger, elle t'a jeté un sort.
Mais qu'est-ce que je vais devenir ?
T'en fais pas. Il y a toujours un moyen d'apaiser un djinn, si furieux soit-il. C'est ainsi que, pendant que Pembe allaitait son nouveau-né, Djamila lui fit jeter du pain sec à une meute de chiens sauvages et s'éloigner sans se retourner. Lancer une pincée de sel sur son épaule gauche et une pincée de sucre sur son épaule droite. Traverser des champs labourés de frais et passer sous les toiles d'araignée. Verser de l'eau de rose dans tous les recoins de la maison. Et aussi porter une amulette autour du cou pendant 40 jours. Elle espérait ainsi guérir Pembe de sa peur de leur défunte mère. Elle ne parvint qu'à ouvrir la porte aux superstitions, une porte dont Pembe connaissait l'existence, mais qu'elle n'avait pas osé franchir auparavant. Cependant, Iskender grandissait. La peau de la couleur du sable chaud, les cheveux sombres et ondulés brillants comme de la poussière d'étoiles, les yeux malicieux, sa tache de naissance sur le nez disparue depuis longtemps, il souriait à l'envi et gagnait les cœurs. Plus son fils devenait beau, plus les choses qu'elle ne pouvait contrôler terrifiaient Pembe. Les tremblements de terre, les coulées de boue, les incendies, les maladies contagieuses, la colère du spectre de Nazé ou la vengeance d'une mère djinn. Le monde avait toujours été un lieu dangereux, mais soudain, le danger était trop réel, trop proche. Le désarroi de Pembe était tel qu'elle refusa de donner un nom à son fils, afin de le protéger d'Azraël, l'ange de la mort. Si le bébé n'avait pas d'affiliation particulière, Azraël ne pourrait pas le trouver, si ardente soient ses recherches. L'enfant passa donc sans prénom sa première année sur Terre, comme une enveloppe sans adresse. Il en alla même de même pour la deuxième, sa troisième et sa quatrième année. Alors quand on voulait l'appeler, on disait
« Fils !»«
Junior !»«
Hé, hey, garçon !»
Et pourquoi Adem ne s'insurgea-t-il pas contre cette absurdité ? Pourquoi ne prit-il pas la situation en main et ne donna-t-il pas un nom à son héritier, comme tout autre homme l'aurait fait ? Mais quelque chose le retint, une intuition plus forte que son caractère emporté et sa fierté de mâle. Un secret entre eux qui conférait à Pembe un pouvoir sur lui et l'affaiblissait, qui le poussait vers un monde interlope, à Istanbul, où il pouvait jouer et être roi, ne serait-ce qu'une nuit. Ce n'est que lorsque le petit eut 5 ans qu'Adem assuma son rôle et annonça que ça ne pouvait plus durer éternellement. Son fils irait bientôt à l'école, et s'il n'avait pas de nom d'ici là, les autres enfants s'assureraient de lui en attribuer un le plus ridicule possible. À contre-cœur, Pembe accepta, mais à une condition. Elle ramènerait l'enfant au village et obtiendrait la bénédiction de sa jumelle et de son père. Une fois sur place, elle consulterait les 3 anciens du village qui, à l'époque, étaient aussi âgés que le moment Ararat, mais qui continuaient à dispenser de sages conseils.
C'est très avisé de ta part de venir nous voir,
confirma le premier ancien du village, si frêle désormais que, lorsqu'une porte claquait près de lui, les vibrations le faisaient frémir jusqu'à la moelle des os.
C'est très bien aussi de ne pas avoir insisté pour nommer ton bébé toi-même, comme les mères le font de nos jours,
remarqua le deuxième homme, qui n'avait plus qu'une dent, une petite perle qui brillait comme la première dent d'un nourrisson. Le troisième homme prit alors la parole, mais d'une voix sourde, et il articulait si mal que personne ne comprit ce qu'il dit. Après plusieurs tours de table, les anciens firent part de leur décision. Ce serait à un étranger de nommer le garçon, quelqu'un qui ne savait rien de la famille et donc rien du spectre de Nazé. Grâce à la confiance qu'il lui inspirait, Pembe accepta. À quelques kilomètres, un torrent n'avait que peu d'eau en hiver et devenait tumultueux en été. Les paysans le traversaient sur une sorte de radeau attaché à un filin tendu entre les deux rives. C'était risqué. Chaque année, quelques passagers tombaient dans les flots. On décida que Pembe se posterait là et demanderait au premier homme ayant accompli la traversée d'attribuer un nom à son fils. Les anciens, se dissimulerait dans les buissons et interviendrait si le besoin se faisait sentir. Pembe et son fils attendirent donc. Elle portait une robe rouge qui tombait aux chevilles et un châle en dentelle noire autour des épaules. Le petit avait revêtu son unique costume qui lui donnait l'air d'un homme miniature. Le temps passait et l'enfant s'ennuyait. Pembe lui racontait des histoires pour le distraire. Une de ces histoires se grava à jamais dans sa mémoire. Quand Nasreddin Hoxha était enfant, il était la prunelle des yeux de sa mère.
Et pourquoi elle avait des prunes dans les yeux ?
Non, c'est une expression, mon sultan. Ça veut dire qu'elle l'aimait beaucoup. Tous deux vivaient dans une jolie maison en bordure de la ville.
Il était où, le père ?
Il était parti à la guerre. Écoute ! Un jour, la mère dut aller au bazar. Elle lui ordonna : tu dois rester à la maison et surveiller la porte. Si un voleur tente d'entrer, crie de toutes tes forces. Il aura peur et il s'enfuira. Je serai de retour avant midi. Nasreddin fit ce qu'on lui avait prescrit. Il ne quitta pas la porte des yeux, pas même un seul instant.
Et il n'a pas eu envie de faire pipi ?
Il avait un pot près de lui.
Il n'a pas eu faim ?
Sa mère lui avait laissé à manger.
Des gâteaux ?
Et du halva au sésame aussi, affirma Pembe qui connaissait bien son fils. Au bout d'une heure, on secoua la porte. C'était l'oncle de Nasreddin qui venait prendre des nouvelles. Il demanda au garçon où était sa mère et ordonna :
va lui dire de rentrer et de préparer le souper. Ma famille va lui rendre visite.
Mais il surveillait la porte ?
Exactement. Nasreddin ne savait que faire. Sa mère lui avait ordonné une chose et son oncle une autre. Il ne voulait désobéir ni à l'un ni à l'autre. Alors, il dégonda la porte, la hissa sur son dos et partit chercher sa mère.
Mais je ferais pas ça, moi je choisirais toujours d'obéir à ma mère plutôt qu'à mon oncle.
Il n'avait pas sitôt terminé sa phrase qu'ils entendirent un bruit. Quelqu'un venait de traverser la rivière et se dirigeait vers eux. À la grande surprise de Pembe et des anciens du village, il s'agissait d'une vieille femme. Elle était dotée d'un nez aquilin spectaculaire, de joues creuses sous des pommettes ridées et de dents toutes tordues. Ses petits yeux en boutons de bottine bougeaient sans cesse, incapables de se fixer. Pembe lui dit que son fils avait besoin d'un nom et la pria d'avoir la bonté de les aider, évitant de donner des détails sur le spectre de Nazé ou sur les anciens cachés dans les buissons. La vieille femme ne parut pas le moins du monde étonnée. Appuyée sur sa canne, elle soupesa quelque chose dans sa tête, calme et bienveillante, comme si cette requête était la chose la plus normale qui fût.
Maman ?
Oui ?
Qui est-ce ?
Chut, mon lion, cette gentille dame va te choisir un nom.
Mais elle est laide.
Feignant de ne pas avoir entendu, la vieille femme s'approcha d'un pas et scruta le visage de l'enfant. Tu n'as pas encore trouvé ton nom, je suppose ? L'enfant leva ses petits sourcils et refusa de répondre. D'accord, très bien. J'ai soif, déclara la femme en montrant un endroit où la rivière formait une anse. Peux-tu me puiser une tasse d'eau ?
J'ai pas de tasse.
Prends-la dans tes paumes alors, insista la vieille femme. Les sourcils froncés, l'enfant regarda la femme, puis sa mère, avant de revenir à l'étrangère.
Non !
Affirma-t-il avec une autorité toute nouvelle.
Pourquoi est-ce que vous n'allez pas chercher votre eau vous-même ? Je suis pas votre serviteur !
La vieille femme inclina la tête comme si ces mots étaient une gifle qu'elle devait éviter. Il n'aime pas servir, n'est-ce pas ? Il veut seulement être servi. Pembe, convaincu d'avoir choisi la mauvaise personne, décida d'apaiser les esprits et de sa voix la plus conciliante, elle proposa. « Je vais vous puiser de l'eau. » La vieille femme ne but pas de l'eau que Pembe lui rapporta au creux de ses mains. Elle la lut. « Ma fille, cet enfant restera longtemps un gamin. Il ne grandira que lorsqu'il atteindra le milieu de sa vie. Il mûrira très tard. » Pembe retint son souffle. Elle eut la certitude que la vieille femme allait leur révéler un secret. Quelque chose qu'elle n'était pas censée dévoiler.
Certains enfants sont comme le frat, rapides, impétueux. Leurs parents n'arrivent pas à les suivre. Mais je crains que ton fils ne te brise le cœur. » Ces mots tombèrent entre eux comme une pierre lancée de nulle part. « Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, » protesta Pembe, un peu tendu. « Avez-vous pensé à un nom pour lui ?»« Oui, j'y réfléchis. Deux noms pourraient lui convenir, en fonction de vos attentes. Le premier est Saalim. À une époque, un sultan s'appelait ainsi, poète et bon musicien de surcroît. Puisse ton fils aussi apprécier la beauté, si on lui donne ce nom. » Et l'autre, s'enquit Pembe, qui respirait à peine dans l'attente de cette révélation, jusqu'à l'enfant qui semblait s'intéresser désormais à la conversation. Le second est le nom d'un grand général qui a toujours marché devant ses soldats, qui s'est battu, comme un tigre, qui a gagné toutes ses batailles, détruit tous ses ennemis, conquis un pays après l'autre, unit l'Est et l'Ouest, le levant et le couchant, et qui en voulait plus encore. Puisse ton fils, lui aussi, être invincible et volontaire, qu'il commande aux hommes, s'il est nommé, comme lui. « Je préfère celui-là, » déclara Pembe, dont le visage s'était éclairé. « Vous en avez donc terminé avec moi. » Sur quoi la vieille femme serra son bâton et s'éloigna sur la route, adoptant une démarche d'une agilité surprenante. Il fallut à Pembe quelques secondes pour reprendre ses esprits et courir derrière elle. « Et quel est-il ? » ?»« Quel est quoi ?» demanda la vieille femme en se retournant pour la regarder, comme si elle avait oublié qui elle était. « Le nom, vous ne me l'avez pas révélé ?»« Oh ! C'est Askander. »« Askander, Askander, » répéta Pembe avec délice. Quand ils revinrent à Istanbul, l'enfant fut enregistré au bureau de l'état civil. Bien que des années en retard, grâce à des suppliques éloquentes et des pots de vin de plus en plus éloquents encore, son existence devint légale. Le nom qu'on inscrivit sur sa fiche quand il entra à l'école fut Iskender Toprak. « Un nom digne du roi du monde !» déclara Pembe. Depuis, elle avait appris qui était Alexandre le Grand. C'est ainsi que son premier enfant, la prunelle de ses yeux, fut Askander en kurde, Iskender en turc, et quand la famille émigra finalement à Londres, Alex, pour les enfants et les enseignants de son école. Le nom que lui donneraient aussi les prisonniers comme les gardiens du centre de détention de Shrewsbury.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Et bien voilà, donc lui est approuvé. Chaque mercredi soir, ce soir nous vous avons lu un roman intitulé Crime d'honneur. C'est de Elif Shafak, qui écrit plein de choses bien, et donc c'est aux éditions Phébus 10-18. Voilà. Et bien voilà, lui approuvé chaque mercredi, donc 23h30, pardon, minuit, donc, et vous pouvez nous retrouver sur le site internet de Canal Sud ou notre blog. Notre blog, c'est lu et approuvé. noblogs.org. Le site de Canal Sud, c'est www.canalsud.net. Vous retrouverez les références des livres que nous vous lisons, mais aussi des musiques que nous vous diffusons et plein d'autres choses encore. Voilà, et vous pourrez retrouver les enregistrements bien sûr de ces émissions. Si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez le faire en nous envoyant une lettre à émission lu et approuvée Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400, Toulouse. Si vous êtes moderne et que vous préférez les ordinateurs, alors vous pouvez nous envoyer un email à lu et approuvé tout attaché sans accent @guyad.org, gwiad.org. Voilà, et plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à mercredi prochain. Salut!
livre si nous ne l'ouvrons pas. Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.